France Info.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont frais, dispo, plein de joie et de vie. Hein. Et ce soir, Les Informés de France Info reçoivent Judith Vintraube du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Également le porte-parole d'Europe Écologie, Les Verts, Julien Bayou, bonsoir.
Bonsoir.
L'entrepreneur Xavier Alberti et soutien d'Emmanuel Macron, bonsoir.
Bonsoir.
Et également Christophe Alix de Libération, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, une actualité toujours bien sûr très politique, un troisième tour social, une droite tendue et des législatives pas si simples pour le nouveau président de la République. Mais pour l'instant, dans Les Informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Bon, autant vous le dire, à l'heure qu'il est, Manuel Valls s'est bien embêté. Depuis ce matin, il cherche partout chez lui des photos d'identité, des justificatifs de domicile, hein, mais impossible de mettre la main dessus. Il a bien appelé la rue Solferino pour savoir s'il n'y avait pas un cliché de lui quelque part, mais bizarrement, il tombe toujours sur le répondeur, on ne sait pas, le téléphone doit être cassé. Manuel Valls est en plein stress car il ne lui reste plus que 24 heures pour envoyer son dossier de candidature à la commission d'investiture d'En Marche. Oui, parce que en fait, il savait pas ça à la base comment ça fonctionnait. Tout a commencé ce matin avec cette déclaration justement de Manuel Valls.
Moi, je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire parce que vous m'avez demandé une réponse claire. Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République en marche.
Voilà ce à quoi lui a répondu le chargé des investitures en marche, Jean-Paul Delevoye.
À l'instant, je n'ai pas reçu sa candidature. Il faut qu'il remplisse les critères. S'il ne remplit pas les critères, bien évidemment, il y a des candidats. Et nous avons déjà, sur cette circonscription, pressenti une candidature.
Ah bah c'est dommage. C'est dommage quand même pour Manuel Valls. Donc c'était Jean-Paul Delevoye. Julien Bayou, quand vous voyez aujourd'hui, Manuel Valls a été très critiqué par son camp, par le Parti Socialiste. Est-ce que vous les comprenez? Il joue un jeu assez complexe, là.
Ah non, il ne joue pas un jeu complexe. Non, il est opportuniste, clairement. Enfin, je veux dire... C'est minable, quoi. Voilà, je sais pas quoi dire. Il a poignardé Benoît Hamon en perlant comme ça les petites trahisons. Il a pas du tout respecté les règles de la primaire. Et là, maintenant, il s'invite chez En Marche. Et je note aussi d'ailleurs le fait qu'il n'envisage même pas de faire une déclaration de candidature. C'est-à-dire vraiment, c'est je suis Premier ministre, tout m'est dû et donc les passe-droits, etc. Quand il y a, si j'ai bien compris, 14 000 candidats aux législatives pour En Marche, il y a des milliers de candidats à travers le pays qui vont faire campagne, mais lui, il pourrait comme ça se télécharger sur une autre étiquette. C'est vraiment affligeant. Et j'espère pour le coup que peut-être Macron sera attendu au tournant. Il a beaucoup parlé de renouvellement. Clairement, on en a besoin. On a besoin d'oxygène dans la classe politique et médiatique aussi. Si effectivement, il pouvait y avoir une vraie candidature En Marche à la limite qui permette d'éjecter Manuel Valls et de le renvoyer ailleurs. Ben pourquoi pas
ailleurs,
ça sera bienvenu. Voilà.
Gilles Vintraube, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu une journée difficile pour Manuel Valls parce que d'un côté, bon, il a dit je veux être candidat pour la République en marche. On a vu que les soutiens Jean-Paul Delevoye comme Benjamin Griveaux, porte-parole d'Emmanuel Macron, ont dit bah attendez, il faut remplir un dossier de candidature. Et de l'autre côté, Jean-Christophe Cambadélis a dit bah attendez, si vous allez vous présenter sur la République en marche, vous n'aurez plus l'étiquette PS.
Oui, mais maintenant il est ailleurs. Mais c'est dans la continuité que du traitement que lui a toujours infligé Emmanuel Macron. Ça commence, rappelons-nous le début de l'histoire, par Manuel Valls qui voit débarquer sur ses plates-bandes libérales, réformatrices, un jeune homme qu'il a contribué largement à promouvoir. Le jeune homme lui prend d'abord ses idées, ensuite sa place comme candidat alternatif au PS, et là maintenant, il ne fait pas le moindre geste envers lui. Quand Manuel Valls avait exprimé son soutien à Emmanuel Macron n'avait même pas pris la peine de répondre au texto. C'est vraiment la coupe jusqu'à la lie.
C'est vrai, Xavier Alberti, entre les deux hommes, on se souvient justement de sa réaction quand il avait appelé à voter Emmanuel Macron. C'est oui, je prends note. C'est vrai qu'on sent que c'est froid, mais d'ailleurs, on sent que c'est un peu froid avec les différents soutiens. On se souvient même Ségolène Royal allant au meeting d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, le porte-parole d'Emmanuel Macron, disant bah, c'est comme si Madame Duchemol venait en fait. On a l'impression que bah, il faut pas trop montrer qu'il y a tous ces soutiens autour d'Emmanuel Macron.
Oui, enfin je pense qu'il y a un changement de méthode. Je pense pas qu'il y ait la volonté de nuire à qui que ce soit. Il y a une méthode qui a été posée à la base sur les investitures que tout le monde a respecté et un des claims, quelque chose de d'essentiel dans En Marche, c'est le fait de dire que les privilèges, ça marche plus. Et qu'il faut justement que chacun soit traité à l'aune de son travail, de son engagement, de son talent, du fait qu'il ait pu arriver tôt dans l'aventure plutôt que à la 25e heure. Et donc, l'accueil, il est pas froid, c'est juste que l'arrivée est tardive. Mmh. Voilà. Donc, c'est plus le changement de méthode pour moi qui est important plutôt que les postures des uns et des autres.
Et Julien Bayou, vous, ce genre de technique, de s'inscrire au départ, on s'est posé la question de savoir si c'était une bonne chose, s'inscrire sur Internet, que tout le monde puisse le faire. Est-ce que vous, finalement, vous approuvez, même si vous n'approuvez pas forcément Emmanuel Macron, mais est-ce que cette technique, voilà, d'investiture pour des candidats, de s'inscrire sur Internet.
Non, mais qu'on puisse ouvrir les candidatures, c'est le minimum. Oui. Enfin, je pense que tout le monde devrait pouvoir se présenter aux législatives. Donc ça, c'est le minimum. Moi, ce qui me pose question, c'est quels critères, quelle commission. Et là, pour le coup, on est très loin de la transparence, puisque c'est une commission qui fait ça à huis clos. Moi, j'ai des amis qui sont candidats, avec qui je discute. Ils savent pas du tout, ils sont complètement dans le noir. Voilà, on ne sait pas. A priori, il faut espérer que la parité sera respectée. C'est le minimum, c'est la loi. Enfin, mais pour le coup, non. Évidemment qu'il faut que tout le monde puisse se présenter. Voilà, nous, Europe Écologie Les Verts, on essaye de mettre en place des critères objectifs pour que ça soit plus clair. Mais j'insiste quand même sur un point, c'est que Manuel Valls, il a échoué. Hein, il a vraiment fracturé le pays. Il a soutenu la déchéance de nationalité. Son programme n'a pas fonctionné. Enfin, je veux dire. S'il y a une page qui se tourne, eh bien, il faut qu'il en soit.
Mais Xavier Albertini.
Oui, juste pour répondre à Julien Bayou là-dessus, il y a des critères très précis qui ont été donnés par Emmanuel Macron lui-même il y a 3 mois de ça environ, pour indiquer qu'il fallait respecter effectivement la parité, elle sera respectée.
C'est la loi.
Le renouvellement, et personne d'autre n'a mis des critères aussi élevés dans le renouvellement, puisque la moitié des candidats ne sortiront pas de mandats nationaux.
Oui, ça a déjà été modifié.
De mandats oui. nationaux.
Oui. La précision est importante. Oui, je croyais que c'était la société civile, mais non.
Évidemment, la probité, le fait d'avoir un casier judiciaire vierge, pas avoir eu de peine d'éligibilité, etc. Donc, il y a déjà effectivement posé sur la table des critères qui soient très précis. Et puis, forcément, il y a une commission parce que ça peut pas s'autogérer. Il faut bien qu'il y ait à un moment donné des gens et qui sont connus et reconnus à la tête de laquelle il y a Jean-Paul Delevoye. Et en plus, on ne peut pas être soupçonné de quoi que ce soit en termes partisans, on va dire. Donc, il y a quelque chose, au contraire, qui est très transparent et très précis, et depuis plusieurs mois, donc tout le monde était au courant, et tout le monde pouvait, à l'aune de cela, se positionner de façon très claire.
Alors, on va continuer à parler, justement, de Manuel Valls et de la gauche, l'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Marion Maréchal-Le Pen va quitter ses mandats politiques. La députée Front National du Vaucluse était jusqu'à présent l'une des deux élues du parti à l'Assemblée. Marion Maréchal-Le Pen souhaite se lancer dans le privé, s'occuper de sa famille. Jean-Marie Le Pen, ce soir, parle de désertion aux possibles conséquences terribles. Éviter le plus possible les duels droite contre FN au second tour des législatives. Le souci du Parti Socialiste après son bureau national cet après-midi. Le PS présentera des candidats dans plus de 400 circonscriptions. En plus de ses autres alliés naturels, le PS souhaite aussi ouvrir des discussions avec la France Insoumise ou la République En Marche. Tout socialiste portant l'étiquette En Marche devra affronter un candidat PS. À droite, Alain Juppé ne souhaite pas d'obstruction systématique ni d'opposition frontale à un gouvernement Macron. Un bureau politique des Républicains se déroulait cet après-midi. Après l'avalanche, cette fin de matinée en Savoie, les recherches ont été levées en début d'après-midi à Bonneval-sur-Arc. Selon France Bleu Pays de Savoie, le bilan est de 3 morts, des skieurs de randonnée et un guide de haute montagne. Aux États-Unis, un tunnel s'effondre près d'un site nucléaire. Dans l'état de Washington, des centaines d'employés ont été évacués ou bien ils ont reçu l'ordre de rester confinés. Selon les autorités, il n'y a pas de fuite radioactive. Et puis la Juventus Turin face à l'AS Monaco, c'est la demi-finale retour de la Ligue des Champions dès 20h45. À l'aller, la Juve s'était imposée 2-0 et c'est à suivre ce soir dans le Classico.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle du Parti Socialiste, hein, puisque aujourd'hui c'est une journée un peu complexe, enfin pas que pour lui, pour toutes les formations politiques, on va le voir tout au long de l'émission. On a parlé de Manuel Valls, lui qui souhaiterait bien être investi par La République En Marche. Le problème c'est qu'il n'a pas rempli de dossier, contrairement à un autre nom que vous connaissez, qui est celui de Malek Bouti, qui est aussi lui député PS de l'Essonne, qui lui a rempli son dossier pour être investi par La République En Marche. dimanche soir. Alors, on ne sait pas à quelle heure exactement, mais il l'a rempli, en tout cas, dimanche soir. Justement, Christophe Alix, il y avait aussi dans cette interview Manuel Valls, qui était très en forme apparemment ce matin. Il a déclaré « Ce parti socialiste est mort, pas son histoire, pas ses valeurs, mais il doit se dépasser ». Quand il dit ça, c'est-à-dire Manuel Valls, qui a été Premier ministre de François Hollande, le PS est mort, ça veut dire quoi? Qu'il est sous assistance respiratoire?
C'est un peu schizophrène. Là, il y avait un titre dans la presse, je crois hier, qui était là, le PS doit maintenant cohabiter avec lui-même. Je crois que ça résumait assez bien l'ambiance actuelle. Tout le monde appelle effectivement un dépassement, un renouveau du PS. Tout le monde dit que le cycle ouvert avec Épinay sur Seine, 1971, François Mitterrand est terminé. Tout le monde dit qu'il faut réinventer le logiciel de la gauche. Mais en fait, personne ne sait vraiment comment. Et le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'il y a comme espace pour un parti socialiste entre, disons, le centrisme et à gauche et à droite d'Emmanuel Macron, le progressisme, le parti démocrate à la française, enfin, appelons-le comme on veut. Et puis, d'un autre côté... La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sans doute un certain nombre d'écologistes qui sont peut-être plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon parce que là, cette transition écologiste, elle semble plus radicale avec lui. Et donc c'est toute la difficulté. Alors, et on n'en sort pas de cette ambiguïté permanente. Et ça va durer.
Manuel Valls, c'est quand même cohérent avec lui-même quand il dit que le PS est mort, puisque c'est lui qui avait diagnostiqué les deux gauches irréconciliables. Donc on peut pas lui enlever la continuité dans
là,
la pensée.
C'est dur, le mot est dur quand même, hein, quand il dit lui-même, quand Manuel Valls qui vient de là.
C'est la suite logique. Maintenant, aller chercher de souhaiter plus ou moins l'étiquette d'un parti qui est mort, c'est encore autre chose. Mais il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent et qui est très influente dans la situation actuelle, c'est que même s'il le fait moins bruyamment que Jean-Luc Mélenchon, en fait, ce que veut Emmanuel Macron, c'est la mort du PS. C'est la disparition du PS. Il veut remplacer la gauche et autour de lui, c'est très manifeste, il n'est pas question de laisser la moindre place, le moindre oxygène au Parti Socialiste. D'où cette espèce de double discours sur les étiquettes. D'abord, vous prenez simplement celle de La République En Marche, qui n'était pas à l'époque connue. Puis maintenant, non, vous pouvez garder votre vieille carte du Parti Socialiste, mais en fait, c'est juste pour la déco. Qu'est-ce qui est important? L'important, c'est de se déclarer en préfecture, c'est la déclaration administrative, parce que ça détermine la formation qui va toucher la part du financement liée à l'élection.
Donc
la vieille carte, c'est pour la déco.
Et pour les partis, c'est important, en effet.
C'est très important.
C'est le nerf de la guerre.
Alors, Xavier Dartigy, après Julien Bayou.
Je vais répondre là-dessus, parce que il y a un objectif qui est clair, c'est celui de former une majorité parlementaire pour mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron. C'est ça l'objectif. À partir de là, ce qu'il faut, c'est arriver effectivement à construire un ensemble homogène à l'Assemblée nationale autour d'une majorité présidentielle. On peut très bien faire partie de cette majorité présidentielle en venant des Républicains, de l'UDI, du MoDem ou du Parti Socialiste, mais en s'inscrivant dans un projet. C'est exactement ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, et pour le coup, c'est exactement ce qu'il dit depuis le début. C'est-à-dire que, effectivement, son programme et son projet est de droite et de gauche, qu'il est capable de transcender les clivages partisans, et que la majorité qu'on veut construire est une majorité inclusive. Ça veut dire qu'elle n'exclut pas les gens sous prétexte qu'ils viennent de quelque part et qu'ils ont une carte.
En revanche,
on ne peut pas avoir la double étiquette. Ça, c'est vrai. On peut très bien avoir une carte d'un parti et venir participer à une majorité présidentielle au service d'un projet.
C'est
quelque chose d'assez unique. Quelque chose d'assez unique dans les annales des régimes parlementaires.
Mais ce qui est en train de se passer est tout à fait unique.
D'un point de vue institutionnel, c'est compliqué.
Julien Bayou, est-ce que pour vous, finalement, aujourd'hui, quand le Parti Socialiste, aujourd'hui, on voit Jean-Christophe Cambadélis qui dit à Manuel Valls, si vous allez à La République En Marche, vous n'aurez pas l'investiture PS, est-ce qu'ils ont encore les moyens de ces menaces, encore pour vous, le Parti Socialiste? Est-ce que finalement, l'hégémonie du PS, elle est terminée aujourd'hui sur la gauche?
Cambadélis, ils ont les moyens des menaces, puisqu'ils peuvent désinvestir. Par contre, ils ont dit qu'ils allaient le faire plus tard. Donc, comme c'est la semaine prochaine, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens de faire les menaces, c'est qu'ils veulent pas. quand Badelis a refusé de trancher. Je pense qu'on est en fait à... C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Moi, je m'intéresse vraiment à l'engagement politique en plus de l'engagement associatif. C'est sûr que les partis font pas rêver et brident et qu'il devrait y avoir une continuité dans l'engagement associatif et l'engagement politique. Et là, on est vraiment... J'ai l'impression qu'on a une charnière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la fiction du PS qui s'écroule. Un parti, c'est quand même autour d'un projet de société. Il n'y a pas de projet de société commun, c'est pas vrai, entre Valls et Hamon. C'est pas les mêmes. Et donc la fiction de la synthèse, en gros, de Hollande, s'effondre. Et tant mieux, en fait. On l'a vu dans la primaire. C'est pas possible. Et de l'autre côté, il y a une autre fiction qui est en train de naître, et je ne sais pas où elle va. C'est En Marche. Et c'est pareil. Il n'y a pas de vrai projet commun, je pense, entre Manuel Valls et Bruno Le Maire, ou entre Robert Rue et Danny Cohn-Bendit. Et donc ça fonctionne le temps de l'élection. Je ne sais pas comment ça va faire. Je pense qu'à un moment vous devrez voter. Ils devront voter. Quelle ligne, quel projet, etc.
Ça devrait être ça, normalement, le 15 juillet pour le
Et donc,
En Marche se transforme en parti politique.
Mais évidemment, juste pour dire que...
Le projet n'est pas négociable. C'est pour ça que j'insiste, justement pour respecter cette cohérence, que c'est justement pour ne pas atteindre, affecter cette cohérence, que Emmanuel Macron a prévenu, vous prenez mon projet tel qu'il est.
Oui, allez-y, Julien Bayou. À tel point que même les candidats ont dû se déclarer, à un moment où ils devaient se déclarer, ils devaient valider et s'engager à respecter le programme de Macron qui n'était pas encore public. Donc c'est vraiment que... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fascinant parce que pour le coup, ça ne va pas durer tel quel. Il va y avoir des fissures, il va y avoir des courants, il va y avoir des gens qui pensent différemment et c'est heureux, c'est souhaitable. Ce qu'il faut, c'est un contrepoids à l'Assemblée nationale, à ce pouvoir absolu de la personne.
Justement, on va...
Et donc il faut des écologistes à l'Assemblée.
Évidemment.
Je voudrais revenir sur le projet non négociable parce que j'ai l'impression que... on est en Corée du Nord. Il se trouve que le projet en question vient de recevoir l'onction démocratique lors d'une élection présidentielle. Donc la pire des choses, ça serait effectivement de se dire que alors qu'il vient de recevoir le soutien du peuple, il faudrait le renégocier. Non. Évidemment qu'on va pas le renégocier. Et par ailleurs, le sujet du mode projet. Alors là, je vais reprendre ma casquette de chef d'entreprise. Moi, quand je suis chef d'entreprise et que je travaille en mode projet, c'est-à-dire avec un projet, je demande pas aux gens autour de la table s'ils sont de droite, s'ils sont de gauche. Je demande si le projet qu'on a autour de la table les motive et est-ce qu'ils ont envie de le mettre en place parce que il est bon pour l'entreprise comme il peut être bon pour le pays. Si les gens qui sont autour de la table ont envie de le porter, peu m'importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils font en dehors de leurs heures de travail, ce qui m'intéresse, c'est leur motivation, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils portent ce projet. C'est exactement la même chose.
Alors, on va continuer à parler notamment là des législatives dans un instant. L'info, on va revenir, Julien Bayou, vous inquiétez pas, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Après la publication sur les réseaux sociaux de fiches de personnes recherchées, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Ces fiches ont été diffusées notamment sur le compte Twitter du journaliste indépendant Jean-Paul Ney. Elles n'avaient pas vocation à être rendues publiques, partagées également hier soir, alors que la police menait une opération de vérification Gare du Nord à Paris. Marion Maréchal-Le Pen va quitter ses mandats politiques. La députée Front National du Vaucluse était jusqu'à présent l'une des deux élues du parti à l'Assemblée. Elle est également présidente du groupe Front National au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marion Maréchal-Le Pen souhaite s'occuper de sa famille et rejoindre le privé. Le Parti Socialiste présentera des candidats dans plus de 400 circonscriptions. La promesse de Jean-Christophe Cambadélis à l'issue du Bureau National du PS cet après-midi. En plus de ses alliés naturels, le premier secrétaire souhaite également ouvrir des discussions avec la France Insoumise ou la République En Marche, trouver des accords dans les circonscriptions où le Front National a dépassé les 60% à la présidentielle. Préparer les législatives, le thème également de l'une des réunions des Républicains cet après-midi. Et avant cela, François Baroin se montrait confiant. Pour lui, seule une part marginale d'élus de droite est tentée de rejoindre En Marche. Et puis le cycliste Christopher Froome, victime à son tour d'une agression sur la route. Deux semaines après le Français Johan Ofredo, le Britannique et triple vainqueur du Tour de France a été percuté volontairement par un automobiliste. Il s'entraînait sur la Côte d'Azur. Christopher Froome n'est pas blessé, mais son vélo, lui, est plié.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraube du Figaro, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Julien Bayou, le chef d'entreprise hein, Xavier Alberti et Christophe Alix de Libération. Et maintenant, eh ben c'est les élections. Eh ben oui, hein, si vous vous êtes déplacé pour les primaires de droite et de gauche, plus la présidentielle, vous voterez le 11 juin prochain pour la 8e fois en 8 mois. Et oui, c'est plus un bureau de vote, mais une chambre à coucher. Élu face au Front National avec de nombreux électeurs souhaitant faire barrage, le camp Macron regarde ces élections avec inquiétude et confiance. Alors inquiétude et confiance, c'est un concept hein, de la Macronie, ça. Jusqu'à présent, les Français ont toujours donné une majorité au président élu, mais par l'adhésion fragile et la volonté de marquer le terrain de la part des formations classiques, ces législatives pourraient se révéler plus indécises que prévu. De l'extrême droite à l'extrême gauche, on sort ses candidats et ses arguments, et ce ne sera pas simple pour le nouveau propriétaire du bail élyséen, selon François-Mickey Marty, il est politologue et président de Via Voice.
Emmanuel Macron n'a pas l'assise territoriale dont pouvait se prévaloir des présidents de la République fraîchement élus comme c'était le cas par le passé. Il ne dispose pas du réseau d'élus locaux. François Hollande, élu en 2012, disposait de conseils régionaux, conseils départementaux, de conseils municipaux, bref, d'une société politique prête à se mettre en mouvement pour lui. Et bien sûr, Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité parlementaire, et cette majorité parlementaire, elle est loin d'être acquise.
Voilà, François-Mickey Marty, politologue, président de Via Voice. Christophe Alix, est-ce que le fait finalement qu'Emmanuel Macron ait été élu largement face à Marine Le Pen, aujourd'hui c'est ça qui brouille les cartes et qui donne un côté indécis à ces législatives?
Oui, parce qu'on peut s'imaginer que, encore une fois, le fait majoritaire qui a toujours fonctionné sous la Ve République va fonctionner avec quelqu'un qui a 65% des voix, 66% des voix au deuxième tour. Ce serait effectivement totalement inédit.
Et pourtant en 2002, Jacques Chirac a eu une majorité derrière.
Oui.
Oui. Donc c'est pour ça je vous dis non mais c'est pour ça qu'on
oui,
se dit.
Oui, mais le fait majoritaire a toujours fonctionné d'accord. Après l'élection d'un président.
Voilà, donc pour vous finalement
ce qui est inédit c'est qu'on se pose la question va-t-il voilà. Fonctionner.
Oui, mais la vraie question c'est, et moi c'est ce que cette discussion ouais. M'inspire, c'est qu'on est dans un espèce de mix infernal entre régime parlementaire
ça, on le
avec des
pas
partis
aujourd'hui.
Politiques ouais. Et régime présidentiel avec un président élu au suffrage universel direct. Et on est donc dans toute l'ambiguïté de notre système
avec les
et on voit bien qu'on
deux,
peut ouais. Tordre le sujet dans tous les sens, on ne s'en sort pas vraiment. Deuxième petit point, Emmanuel Macron, il faudrait savoir s'il souhaite vraiment renouveler la politique française et dans ces cas-là, eh bien, pourquoi pas prendre le risque de présenter des candidats d'un parti qui s'appellerait En Marche dans toutes les circonscriptions et de ne prendre que des gens d'En Marche ou s'il souhaite avant tout faire exploser la gauche et la droite. Alors les deux sont intimement liés, mais il y a peut-être un moment où il y aurait peut-être pu avoir un choix plus clair de ce côté-là.
Julien Bayou.
Oui, non, moi je voulais d'abord revenir quand même sur le fait que certes il a gagné et moi j'ai voté pour lui, mais c'est pas par adhésion et donc ça c'est extrêmement important. Moi j'entends il a gagné, c'est super, il a un mandat. Vous avez parlé de l'onction du suffrage universel. Quand l'abstention, le vote blanc, les votes nuls arrivent devant Marine Le Pen par rapport au nombre des inscrits.
Peut-être vraiment quand même tout non, cumuler
mais,
ensemble.
Non, mais bien sûr. Mais
on va voir.
C'est qu'on a un pays fracturé. Enfin, je pense que là, il y a vraiment une responsabilité. Et pour le coup, le mandat Chirac, élu en 2002 avec 82% des voix, a abîmé le pays. Il en a rien fait. Il devait rassembler les Français.
Le pouvoir.
Il a fait une politique de droite. D'ailleurs, absolument inutile en fait. Il n'a pas fait grand-chose.
Il a nommé Jean-Pierre Raffarin premier ministre.
Oui, il a fait le nom à l'Irak.
Il a moindre ouverture à gauche.
Il a fait le nom à l'Irak et quelques autres lois. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de répondre aux attentes des Français. Là, le pays est fracturé et ce serait vraiment dangereux pour les institutions, pour le pays, de ne pas en prendre compte, de ne pas en tenir compte.
Donc vous proposez un gouvernement d'union nationale ?
Non, moi, ce que je propose, c'est qu'on s'abstienne de dire qu'il est légitime à porter son projet. Par exemple, les ordonnances. Moi, j'ai été délégué du personnel. Oui, mais c'est hyper important.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, il faut absolument un contrepoids, j'y reviens, à l'Assemblée. Parce que si on lui donne les pleins pouvoirs avec le fait majoritaire, la majorité absolue, on va dérouler quelque chose qui est contraire aux attentes de la population.
Comme toute la Ve République. Comme toute la Ve République.
Je ne suis pas pour la Ve République. Je suis cohérent et je suis pour la 6e.
Julie d'intro, pardon.
Non, mais moi aussi, je voulais revenir sur ce débat et j'allais aussi citer les ordonnances. Pourquoi ? Vous avez l'air très soucieux de récuser l'idée que c'est Emmanuel Macron qui déciderait tout seul de son projet, ou en tout cas que son projet serait immuable puisque ayant reçu l'onction du suffrage universel. Pour moi, c'était pas un reproche, c'était un fait. Emmanuel Macron nous dit je ne changerai pas mon projet. D'ailleurs, je ferai passer par ordonnance la réforme du droit du travail pour être bien sûr de pas avoir d'obstacles sur ma route. Alors ça concerne qui? Une éventuelle absence de majorité à l'Assemblée ou une éventuelle opposition sociale.
Il veut aller plus vite.
Et il dit, pour finir là-dessus, ouais, qu'il ne veut pas de coalition de partis. Il dit très exactement, je ne suis pas là pour faire la 4e République dans la 5e.
Bon. Xavier Alberti.
C'est une approche du pouvoir.
Sur le projet, d'abord, c'est un projet qui a été co-construit. Et pour le coup, c'est pas le projet d'un homme, c'est le projet d'un mouvement. Et ça, j'y tiens, c'est vraiment très important. C'est un projet qui a été co-construit, c'est la première chose. La seconde, c'est que il a annoncé la couleur dès le départ. C'est quelqu'un qui apporte une vraie révolution étonnante dans le paysage français. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Donc il avait dit voilà ce que je ferai. Le fait de passer par les ordonnances sur un certain nombre de dispositions, il l'a dit avant le deuxième tour.
Il ne cache rien.
Non mais il dit une méthode de gouvernement.
Il dit les choses en tant que tel, il annonce les choses.
Vous savez, nous il y a Flexi Sécurité, nous c'est la Flexi Publicité. On va être obligé d'y aller dans un instant. On parlera justement de ce troisième tour, peut-être social. On parlera de la droite dans un instant. Il y a beaucoup de choses encore à dire. La suite du programme des informés de France Info.
Si je te dis porte blindée, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr !
Et jusqu'au 3 juin, c'est le mois de la sécurité. Tu peux aller dans l'un des 220 magasins Point fort fichier pour profiter de remises jusqu'à 600 euros sur les portes blindées fichier.
En plus, tu peux bénéficier de 30% de crédit d'impôt sur la nouvelle porte de maison Super Design Stylea.
Voir conditions en magasin. Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Nuit, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier.
West France, un rythme d'enfer, laissant le lecteur scotché et essoufflé, l'impression d'avoir couru un marathon.
Nuit de Bernard Minier, oppressant et implacable. Un livre XO.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Ça va se dégrader par le sud-ouest. Demain, dès le matin, des averses orageuses gagneront l'Aquitaine, les Charentes. Elles progresseront vers le Limousin, le Poitou, la Vendée, le sud de la Bretagne l'après-midi. Entre le Finistère, le Berry, l'Occitanie et la région PACA, ce sera très voilé. On pourrait même avoir une ondée sur le sud du Massif central, les Alpes du Sud. Du nord de la Bretagne vers l'Orléanais, le Lyonnais, les Savoie, le soleil aura l'avantage, juste légèrement voilé. Et puis plein soleil entre la Normandie, le nord de la Seine, la région parisienne, le nord-est. On aura un peu de vent vers le nord-ouest, dans le sud-est également, un vent de sud jusqu'à 60 km à l'heure en vallée du Rhône, 80 pour le vent d'Autan. Il fera 2 à 9 degrés le matin, 10 à 14 du sud-ouest à la Méditerranée. L'après-midi, ça montera, 18 degrés à Lille, 21 à Strasbourg, Paris, Rennes, Bordeaux ou Marseille, et 23 pour Nevers, Lyon et Ajaccio.
Et oui, il est 20h30 sur France Info.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info à 20h30, c'est Fanny Bouvard, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. À 27 ans, elle quitte la politique. Marion Maréchal Le Pen, députée du Vaucluse, l'annonce ce soir et la frontiste explique ses motivations dans une lettre publiée demain dans la presse régionale. Elle veut se consacrer à sa famille et se tourner vers l'entreprise. Pour son grand-père, Jean-Marie Le Pen, c'est, je cite, une désertion. L'élection d'Emmanuel Macron va-t-elle rebattre les cartes chez les Républicains? Le bureau politique du parti s'est réuni à Paris en fin d'après-midi pour établir son programme pour les législatives, et c'est d'ailleurs le projet amendé de François Fillon qui a été retenu. Reste que beaucoup de membres regardent maintenant clairement vers La République En Marche, Yannick Falt.
Jean-Pierre Raffarin et Valérie Pécresse ont appelé à une opposition constructive. Comprenez pourquoi ne pas voter certains projets de loi du futur gouvernement. La sénatrice Fabienne Keller a bien défendu l'idée d'une coalition à l'allemande, mais pas question pour le bureau politique du parti d'envisager tout rapprochement avec Emmanuel Macron. Ceux qui seraient tentés de le faire seront exclus, répète le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Ceux qui iront la semaine prochaine dans le gouvernement de M. Macron s'excluront de même de notre famille politique. Ils quitteront, et nous le regrettons, notre famille politique. Mais je suis convaincu que ce départ seront totalement marginaux.
Message à l'attention de Bruno Le Maire, le seul prêt à franchir le Rubicon pour l'instant. Une fermeté que ne comprend pas Christian Estrosi, qui vient de lâcher la présidence de la région PACA pour la mairie de Nice.
Si c'est pour radicaliser, comme nous avons radicalisé l'élection présidentielle, eh bien les mêmes causes produiront les mêmes effets tout simplement. Après l'échec des présidentielles, ce sera l'échec des législatives. Et c'est bien pour cela que j'appelle plutôt rassemblement au respect de ceux et celles qui voudront accompagner des réformes dont notre pays a besoin, plutôt que de jeter des anathèmes sur eux.
Christian Estrosi isolé ce soir au sein de son parti qui renvoie tout débat sur la ligne politique à plus tard. Commentaire d'une élue, on n'est pas très pour un suicide collectif. Au siège des Républicains, Yannick Fall, France Info.
Une belle journée pour les socialistes. La phrase est signée Jean-Christophe Cambadélis ce soir. Le premier secrétaire du Parti Socialiste reconnaît tout de même que les discussions ont été longues autour du programme pour les législatives, autour aussi de la position à adopter face à la majorité présidentielle. Manuel Valls a annoncé ce matin briguer l'investiture de la République en marche pour les législatives. Un nouveau président élu aujourd'hui en Corée du Sud, Moon Jae-in, ancien avocat spécialiste des droits de l'homme, changement clair de cap pour le pays après la destitution de son ancienne présidente. France Info, il est 20h33. Place tout de suite à la deuxième partie des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de l'actualité, de la TNT et de l'actualité. En fait, pourquoi j'ai actualité dans cette TNT? En fait, ça s'appelle comme ça, ce télé numérique terrestre. Et eux, ils bourgeonnent au soleil de l'actualité, justement. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraube du Figaro, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, l'entrepreneur Xavier Alberti et Christophe Alix de Libération. Juste avant le journal, nous étions en train de parler des législatives. J'avais encore une question. D'après vous, Julien Bayou, de nouvelles élections là, qu'il va y avoir comme législatives, est-ce que ça peut ramener de nombreux électeurs qui se sont abstenus au voté blanc, vous pensez? Ou alors, finalement, il y a quelque chose de plus profond qui fait qu'aujourd'hui, les élections sont plus reconnues par un certain nombre de Français ou d'électeurs?
Je pense pas. On a beaucoup parlé politique. Hein. Imaginez quand même qu'il y a eu 10 millions de personnes, je crois, qui avaient regardé les débats, oui. Peut-être plus encore qu'on en regardait plusieurs. Il y a eu une participation phénoménale en fait hein, au premier tour de la présidentielle. Ceux qui sont abstenus aussi souvent des fois par choix. Donc non, il y a un vrai intérêt. Je crois par contre qu'il y a une envie de même plus de démocratie. C'est un peu le mouvement Nuit Debout, c'est-à-dire plutôt que voter tous les 5 ans, avoir une démocratie en continu, comme disait Rosan Vallon, et qu'on puisse participer par des budgets participatifs, par des amendements coécrits, etc. Donc moi je vois plutôt une envie de politique, de participer, d'avoir prise sur le cours des choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas de majorité automatique à l'Assemblée, pour une fois, eh bien, le Parlement aura enfin un peu de pouvoir. Mmh. Et notamment, ça ne sera pas la 4ème République, mais ce sera un contrepoids. Je pense, par exemple, si on arrivait à faire un rassemblement et qu'il y ait des députés de la gauche écologiste, qu'ils soient monistes de Mélenchon ou écologistes, évidemment, eh bien, ça serait plus compliqué de faire passer le CETA, le traité avec le Canada, qui est si dangereux pour notre alimentation, notre santé, etc., de le faire passer en force. Et pareil avec les ordonnances. Les ordonnances sur la réforme du travail, c'est extrêmement dangereux.
Alors juste
un mot juste là-dessus parce
qu'on va juste en parler après. J'ai un très beau son d'ailleurs pour vous. D'ailleurs, Julien Bayou, vous inquiétez pas, on va entendre tout le monde. Ah, mais promis, on va d'abord juste parler un petit peu de la droite.
On touche au concret de la vie des gens.
Bien sûr. Juste une chose, Gilles Vintraube, est-ce que on l'a vu le soir même quand même de l'élection d'Emmanuel Macron, donc dimanche dernier, il y a eu de nombreuses études quand même qui sont apparues tout de suite montrant que les Français je crois que c'est peut-être une première hein, d'ailleurs dans les élections, ne voulant pas donner de majorité aux candidats qu'ils ont élus. Oui. Donc ça paraissait assez
61%.
Étonnant. 61%.
Souhaitait qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité.
Ça paraît ça quand même changer, étonnant. Bon.
Oui, ça peut changer, mais enfin c'est quand même
Le soir même où on élit.
De toute façon, ça va avec la forte abstention, le taux inédit de vote blanc et nul, et puis l'absence de liesse populaire le soir du second tour. C'était assez frappant quand on a connu les élections précédentes. On sent qu'il y a des macronistes plein de ferveur, mais le reste de la France est plutôt dubitatif. Mais ce qui va jouer, et moi je pense aussi que les gens vont vouloir s'exprimer, notamment ceux qui ont perdu leur candidat au premier tour, ce qui va jouer, c'est l'éclatement du paysage politique. Il y a quand même au moins 4 choix majeurs à faire entre ce que propose Emmanuel Macron, ce que propose la droite qui, entre parenthèses, vient de réécrire son programme version électoraliste d'une façon qui pourrait poser quelques problèmes aux gens qui avaient voté Fillon au premier tour, mais ça, on en parlera peut-être. Voilà, il y a ça. Il y a les gens qui avaient voté pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et qui veulent continuer à faire entendre la voix de cette gauche-là. Et puis, il y a le Front National. Et ces 4 gros groupes existent toujours.
Et ceux qui ont voté Macron, mais par défaut, pour un vote soi-disant utile.
Je parlais du premier tour.
Tout le monde est au clair sur le fait que, et je revenais juste sur la ferveur, même s'il y en a eu un peu, je pense que tout le monde est quand même assez lucide sur le fait que la situation est grave et qu'on est dans un moment de l'histoire de ce pays où, effectivement, il va falloir passer aux actes et il va falloir agir, débloquer, transformer réellement, sans faire n'importe quoi, mais de façon assez claire et nette. Et c'est pour ça qu'il faut une majorité. C'est pour ça que je réponds à ce que disait Julien Bayou tout à l'heure. La pire des choses serait qu'on rentre dans une phase de déstabilisation parlementaire ou d'instabilité parlementaire. Là, ce dont a besoin le pays, c'est d'avoir un projet clair, il l'a, un président élu, il l'a, et maintenant une majorité pour mettre en place cette politique.
Comment vous l'interprétez, vous, ce doute, justement, ce doute aujourd'hui des Français de se dire, on vient d'élire un homme, mais bon, de là à lui donner une majorité, c'est pas gagné.
Je crois que ce qui va effacer le doute, c'est l'action. Je crois que d'abord, tout ce qui se passe est très nouveau. On vit le croisement d'un mouvement et d'un moment très particulier, où on perd des repères, et donc effectivement, on se retrouve dans une situation où on se demande un petit peu comment ça peut évoluer. Je crois que le pari d'En Marche et d'Emmanuel Macron, c'est celui du mouvement. Et c'est par l'action qu'on va réconcilier l'opinion publique avec sa classe politique. C'est par l'action, et par rien d'autre que l'action. Mmh. Pas les discours, pas les postures, l'action. Le fait d'avoir une méthode claire, le fait d'avoir un projet clair, et le fait de le mettre en œuvre, quoi qu'il en coûte, de le mettre en œuvre. Mmh. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut recevoir. Et s'il peut y avoir des doutes aujourd'hui, il faut les combattre par l'action, et uniquement par l'action.
Et Christophe Alix, pour vous, c'est aujourd'hui, c'est une chose possible, et surtout, voilà, ce doute, est-ce que ça vient aussi, finalement, de ces candidats trop proches au premier tour, c'est-à-dire, enfin, trop proches, si c'est 24, 21, 20, 19, à savoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, qui se tiennent quand même tous?
Bien sûr, et puis Emmanuel Macron, il a dit lui-même qu'il n'aurait pas d'état de grâce. Il l'a dit que... Je suis d'accord sur un point, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron fait ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'il a une certaine constance dans sa ligne depuis qu'il a quitté le gouvernement, qu'il est rentré en campagne, qu'il a créé En Marche. Mais j'ai l'impression que là, ça se complique un petit peu. Et que pour l'instant, en tout cas, au lendemain de la présidentielle, le paysage est beaucoup plus brouillé. Alors, est-ce qu'après, les choses vont se clarifier? Il faut imaginer, à mon avis, ce qui va se passer entre le premier et le deuxième tour. Ça va être épouvantable.
Alors là, on va en parler.
En fonction, par exemple, des gens qui vont être arrivés en tête, des ralliements, des gens qui vont se retirer, des marchandages. Ça va durer une semaine. Ça va être infernal.
Julien Bayou.
Oui, non, moi, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul. C'est-à-dire que vraiment, quand Hollande ou Sarkozy gagnent avec 53%, ils ont une assise, une légitimité bien plus forte que celle qu'a Macron. Tout autour de moi et dans de nombreuses régions, il y a eu un vote Macron qui était un vote anti-Le Pen. Et moi, je suis évidemment soulagé qu'il ait gagné, j'ai appelé à voter pour lui sans état d'âme. Ça n'est en rien un vote d'adhésion. Et donc, il ne faut pas confondre l'élection, en gros, par un bon positionnement au premier tour et puis un vote par défaut au second, avec la juste représentation des attentes des Français. Et donc, cette 5e République fonctionne mal. En 2012, il y avait 40% des électeurs, ceux de Mélenchon, de Le Pen et de Bayrou, qui n'étaient pas représentés. Il ne faudrait pas qu'on renouvelle ce problème et qu'on confie toutes les clés à Macron, parce que ça serait une usurpation. Il n'y a pas d'appétence à 51%. J'aimerais qu'on ne confonde pas représentation. J'aimerais qu'on ne confonde pas représentation et instabilité parlementaire. En Allemagne, il y a la proportionnelle et ça fonctionne bien. Merkel est stable depuis longtemps.
Système de coalition.
Alors, on va continuer. On va parler justement encore de cette fois-ci du résultat de cette présidentielle, encore et toujours, cette fois-ci du côté de la droite où c'est un petit peu le foutoir ce soir. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Éviter le plus possible les duels droite contre Front National au second tour des législatives. Le souci du Parti Socialiste. Après son bureau national cet après-midi, le PS présentera des candidats dans plus de 400 circonscriptions. Pour les autres, le parti souhaite, en plus de ses alliés naturels, ouvrir des discussions avec la France Insoumise ou la République En Marche. À 27 ans, Marion Maréchal-Le Pen va quitter ses mandats politiques pour des raisons personnelles. La députée Front National du Vaucluse était jusqu'à présent l'une des deux élus du parti à l'Assemblée nationale. Elle est également présidente du groupe FN au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Marie Le Pen, son grand-père, parle de désertion aux possibles conséquences terribles. Donald Trump n'annoncera pas sa décision sur l'accord de Paris concernant le climat avant le sommet du G7, c'est-à-dire la fin du mois. Contrairement à ce que le président américain avait prévu au départ, il veut être certain d'avoir le temps de choisir la meilleure stratégie pour les États-Unis. 5 ans de prison en appel pour une fausse victime des attentats de Paris et de Nice. Condamnation cet après-midi à Aix-en-Provence pour cet homme de 36 ans. Par deux fois, il avait, avec son épouse, voulu toucher l'argent du fonds d'aide aux victimes du terrorisme. Et puis la Juventus Turin face à l'AS Monaco. C'est la demi-finale retour de la Ligue des Champions dans quelques minutes, 20h45. À l'aller, la Juve s'était imposée 2-0. C'est à vivre ce soir sur France Info dans le Classico.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'était une grosse journée de réunion pour les partis politiques. On a parlé justement du PS et les Républicains, eux, ont choisi la gestion par thérapie de groupe. Hein, avec cette question, être ou ne pas être Macron, la tentation est grande, hein, comme chez Bruno Le Maire, où il paraîtrait le député-maire du Havre, Édouard Philippe. Pour d'autres, eh bien, ce genre d'approche d'Emmanuel Macron, ce serait de la trahison, comme l'explique François Baran. Mais les Républicains sont toujours debout, selon Éric Ciotti.
Emmanuel Macron, à bien des égards, est ambigu. Il a gagné sur une forme d'ambiguïté, sur son projet, sur ce avec qui il va gouverner. Là, on voit bien aussi qu'il essaie de faire des petits débauchages, que c'est pas clair, il veut détruire les Républicains,
il veut détruire les partis.
Il veut détruire le PS.
Oui, mais
PS,
il le dit d'ailleurs.
Le PS a marché, hein, voilà, ça c'est fait. Mais nous, il nous détruira pas.
Il nous détruira pas, Éric Ciotti, ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin, donc sur BFM. Judith Vintraube, est-ce que pour vous, la situation est comparable entre le Parti Socialiste et les Républicains ?
Non, je ne crois pas, non, qu'elle soit comparable, parce que il n'y a pas, même ce soir, il n'y a pas eu au bureau politique de clivage sur le fond comparable au de gauche irréconciliable. Quel est le clivage à droite? Vous avez un Éric Ciotti qui dit aucune compromission, Emmanuel Macron c'est le mal absolu, vocabulaire, des mots, et Alain Juppé qui explique qu'on peut très bien vouloir une victoire la plus large possible des Républicains alliés aux centristes, sans pour autant s'interdire ensuite de voter des projets, si on n'a pas la majorité, proposés par Macron.
Voilà, il dit on ne va pas s'engager dans une opposition brutale.
Qu'on jugerait bon pour le pays. Bon, voilà, toute la bagarre est là-dessus. Elle ne me paraît pas ontologique, elle ne me paraît pas essentielle, s'il vous plaît.
Xavier Alberti, on a souvent dit, voilà ce que dit Éric Ciotti, finalement, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il veut quoi? Il veut tuer le PS, tuer les Républicains? Est-ce que c'est son but pour faire un grand parti, finalement?
Non. En revanche, je pense que ce sont ces partis-là qui sont à la fin de leur cycle. Le sujet des Républicains, c'est historiquement d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Judith, pour moi, il y a deux droites qui ne s'aiment pas. Il y a une droite orléaniste, il y a une droite bonapartiste, elles ont des vraies différences. Elles ont été réunies à la faveur de l'autorité de deux patrons qui étaient Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy et qui avaient la capacité de tenir le parti et de tenir ces deux clans ou ces deux familles-là réunies et de remporter des élections. Le fait est que dès lors qu'il n'y a plus de leadership, il n'y a plus de colonne vertébrale et les deux familles s'affrontent. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que autour de notre projet, on veut réunir tous les progressistes. Il se trouve que dans la droite, il y a une partie de la droite qui est la droite sociale, la droite gaulliste, et que celle-ci a la vocation à participer à une large majorité, à peut-être à participer à un gouvernement qui sera ouvert, parce que justement Emmanuel Macron, il aura entendu ce qu'est la composition du vote du second tour, et donc ce qui se passe dans les partis, c'est pas Emmanuel Macron en tant que tel qui en est le responsable. Lui, il est responsable de ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a compris, il a analysé la situation et il est arrivé à ce moment-là précis avec les bonnes solutions.
Je suis un trop joyeux de ne pas être d'accord.
Non, parce que je suis un peu vu que c'est mon boulot, les débats au sein des Républicains, ils ne sont pas du tout en train de s'affronter sur les sujets de fond. Par exemple, sur le régalien, tout le monde était d'accord pour laisser le programme à peu près dans l'état où François Fillon l'avait fait tout à l'heure.
Ils l'ont bien retouché quand même, le programme.
Oui, mais ils ne l'ont retouché que pour en faire une version démagogique.
Les fameux 500 000 postes de fonctionnaires, en fait, maintenant, ça se ferait plus en 5 ans, mais 7 ans, voilà,
7
par exemple. Voilà,
mais il y a pire que ça. Il y avait un équilibre financier revendiqué par François Fillon qui passait par le maintien, pas de baisse de l'impôt sur le revenu. Et bien maintenant, dans la nouvelle version du programme, l'impôt sur le revenu baisse de 10% pour tout le monde. Mmh. Il n'y a plus d'augmentation du taux supérieur de la TVA. Excusez-moi si c'est pas de la démagogie. D'après Gilles Carrez, et j'en finis, Gilles Carrez, qui est un comptable des Républicains, le député ex-président sortant de la commission des finances de l'Assemblée, qui est connu pour sa rigueur, lui dit que dans la dernière mouture du projet pour l'initiative des Républicains, il manque de l'ordre 6 à 7 milliards. C'est Gilles Carrez qui le dit.
Gênant. Christophe Alix.
Non, enfin, on voit bien qu'il y a quand même une analyse qui est faite que le projet de Fillon était sans doute trop radical, même en dehors des affaires judiciaires qui ont considérablement pesé sur l'échec de François Fillon, et qu'il y a quand même aussi une certaine forme, apparemment, de recentrage, notamment aussi pour essayer de garder les centristes avec eux. Parce que sinon, ils ont un peu peur que les centristes...
Alors écoutez, hier, nous avions Jean-Christophe Lagarde, il n'avait aucune crainte de son alliance. Ça allait, je vous le dis. Je préfère vous le dire, c'est vraiment, il n'y avait aucun problème avec ça.
Oui, parce qu'ils en attendent des postes de députés. Mais bon, enfin, il semble quand même que le projet ce ne soit pas forcément que un projet démagogique, mais peut-être un projet quand même qui recentre un peu par rapport
sur l'économie.
Notamment.
On parlait de social à l'instant et on parle souvent, c'est vrai, des législatives comme un troisième tour. Mais si ce fameux troisième tour n'était pas électoral mais social, comme le disent certains, si les bulletins de vote étaient remplacés par des pavés, on verrait. Et puis surtout si les bras zéro saucisse remplaçaient les soirées à la rotonde. Nombreuses sont les organisations inquiètes par le programme d'Emmanuel Macron et ont appelé à se mobiliser sitôt le nouveau président élu. La CFDT, par exemple, appelle Macron à ne pas diriger seul. Force ouvrière s'interroge et nombreux sont ceux à s'inquiéter sur la future loi travail que le nouveau président souhaite faire donc passer par ordonnance cet été. Et ça ne plaît pas du tout au secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
Déjà, il faut qu'il discute avec les syndicats. Et gouverner par ordonnance, c'est peu ou prou la même chose que ce qui a été fait là aussi par le passé, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas, on respecte pas la démocratie, et au nom de vouloir aller vite, eh bien, on prend des décisions.
Voilà, Philippe Martinez, hier sur France Info. Julien Bayou, c'est ce que vous disiez. Est-ce que finalement vous êtes dans la même attitude que Philippe Martinez, c'est-à-dire Emmanuel Macron, cette loi de réforme sur le travail, c'est la continuité de la loi El Khomri?
Absolument, oui. En fait, déjà, moi, je veux dire que je vois pas de raison d'une opposition systématique à ce que propose Macron. Parce que s'il met effectivement en place l'inéligibilité des élus corrompus, eh bien, il faudra voter pour. Ça, c'est évident. Mais de la même manière, l'ordonnance et le fait de faire passer l'accord d'entreprise sur la loi, c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai été délégué du personnel. C'est pas vrai qu'il y a une possibilité de discussion entre les salariés et l'employeur, comme ça, sans filet. Heureusement, il y a un filet, c'est la loi, c'est le socle, et la discussion, elle permet d'aller au-dessus, que ce soit dans les conventions collectives ou dans les accords d'entreprise. À défaut, eh bien, c'est la porte ouverte à, en fait, un peu le programme de Fillon, c'est-à-dire casser casser la limite de la durée du travail, ou en fait travailler plus longtemps pour le même salaire, etc. Enfin, c'est extrêmement dangereux. Et donc, effectivement, il faut un contrepoids à l'Assemblée. Il faudra aussi une mobilisation dans les urnes. Et je termine là-dessus. C'est pas pour autant qu'il faut pas une loi travail. Aujourd'hui, on a toute une partie de la population qui est mal protégée. C'est le RSI, c'est les entrepreneurs, c'est les freelances, c'est tous les Deliveroo et Uber, etc. Il y a besoin d'une mise à jour de notre protection sociale. Et le raisonnement devrait être, comment est-ce qu'on fait pour qu'à cotisation égale, il y ait une protection égale, mais pas tout casser. Et je vois pas en quoi ça crée un seul emploi.
Alors on va parler de ça justement dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Après la publication sur les réseaux sociaux de fiches de personnes recherchées, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Elles ont été publiées notamment sur le compte Twitter du journaliste indépendant Jean-Paul May. La police des polices est saisie. Les fiches n'avaient pas vocation à être rendues publiques. Elles ont aussi été partagées hier soir alors que la police menait une opération de vérification Gare du Nord à Paris. Le Parti Socialiste présentera des candidats dans plus de 400 circonscriptions. La promesse de Jean-Christophe Cambadélis à l'issue du bureau national du PS cet après-midi. Le premier secrétaire souhaite également ouvrir des discussions avec la France Insoumise ou la République En Marche pour les autres circonscriptions où le Front National a été très fort en présidentielle. En revanche, tout socialiste portant l'étiquette En Marche devra affronter un candidat PS. Jean-Marie Le Pen parle de désertion aux conséquences terribles. Sa petite fille, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, va quitter ses mandats politiques. La députée Front National du Vaucluse était jusqu'à présent l'une des deux élues du parti à l'Assemblée nationale. Présidente du groupe Front National également au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bureau politique chez les Républicains cette fin d'après-midi. Avant cela, François Baroin, considérait que chez les élus de droite, la tentation de rejoindre Emmanuel Macron était marginale. Après l'enlèvement du petit Vicente, son père est mis en examen et incarcéré ce soir. Jason Lopez avait été interpellé sans difficulté vendredi dernier près de Toulouse. L'enfant de 5 ans et demi est sain et sauf. Il avait été enlevé fin mars près de Clermont-Ferrand.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, si on sait depuis dimanche soir qu'Emmanuel Macron veut aller très vite, il a des chantiers prioritaires et notamment la réforme du Code du Travail, d'une nouvelle loi travail en fait, Xavier Alberti. Est-ce que c'est pas finalement une nouvelle loi El Khomri qui nous attend pendant l'été et qui va braquer de nouveau comme ça a été pendant près de 6 mois l'année dernière, au même moment, au mois de mai, l'année dernière c'était vraiment des manifestations dans tous les sens. Est-ce que ça ne va pas être ça de nouveau avec Emmanuel Macron ?
La loi El Khomri, c'était une loi mal préparée, qui est arrivé au mauvais moment dans le quinquennat, et donc qui a donné les résultats qui étaient finalement ceux attendus. Ce qui est certain avec Emmanuel Macron, c'est qu'on ne perdra pas de temps. C'est-à-dire que ça ira vite, et le sujet de l'ordonnance, c'est d'abord un sujet d'efficacité. Ensuite, sur le fond,
il est 100 jours.
Oui, mais on sait que on vient de dire, il n'y aura pas d'état de grâce, mais il faudrait pas en tirer de conclusions. S'il faut en tirer des conclusions, c'est qu'il faut agir très vite. Par ailleurs, je voudrais revenir sur le fond. Un des diagnostics, c'est celui du blocage du pays. Le blocage du pays vient aussi du fait qu'on n'est plus capable aujourd'hui d'ériger des solutions nationales pour des problèmes de plus en plus complexes, de plus en plus locaux, de plus en plus diffus finalement à l'intérieur de la société. Donc il y a une grande idée dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est de redonner l'autonomie. J'écoutais tout à l'heure Julien Bayou qui disait qu'il fallait plus de démocratie. Plutôt qu'avoir des votes de temps en temps, il faudrait plus de démocratie. Et pourquoi il ne faudrait pas plus de démocratie dans l'entreprise ? Et pourquoi le fait de pouvoir négocier des accords d'entreprise, de laisser à un moment donné des patrons qui ne sont pas tous des salauds, pardon pour le mot, et des salariés pour trouver les meilleures solutions à l'intérieur de chaque entreprise, à l'intérieur de chaque bassin d'emploi, à l'intérieur de chaque industrie, de chaque service, de chaque métier, ça serait quelque chose qui serait contraire finalement au discours qui consiste à dire oui, il faut plus de démocratie et il faut aussi plus de démocratie dans l'entreprise.
Julien Bayou, après Christophe. Alors pour le coup, moi j'étais délégué du personnel, mais juste après j'étais gérant et je peux pas vous laisser dire que il y a des endroits où ça se passe bien, etc. Le truc c'est qu'il faut un socle qui protège. S'il y avait pas le SMIC, s'il y avait pas la durée,
personne ne veut remettre en cause le SMIC. Et bien sûr que si, mais il y a le droit commun.
Mais non, mais bien sûr que si. Votre champion là, il veut faire primer le contrat d'entreprise sur la loi. Eh bien, moi, je dis que c'est extrêmement dangereux parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de plancher et que quand vous êtes face à des salariés qui sont en difficulté, vous arguez de difficultés. C'est Whirlpool qui dit, bah voilà, je gagnerai plus ailleurs, c'est Continental, etc. Eh bien, on fait baisser les conditions de travail ou les rémunérations. C'est comme ça que ça se passe dans l'entreprise. J'ai été gérant, c'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé. Et dans la loi El Khomri, vous m'avez pas répondu. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça crée de l'emploi ? C'est pas vrai. Et je termine avec Ruffin qui a fait beaucoup
de la loi,
qui a travaillé là-dessus.
Non mais Ruffin.
Qu'a-t-on fait pour lutter contre les délocalisations ? La loi El Khomri, elle devait répondre à ça. Il y a rien dedans.
J'aimerais qu'on entende un petit peu tout le monde. Justement, Christophe Alix, vous vouliez réagir.
Je suis d'accord avec Julien, on sait bien quand même que en faisant tout au niveau de l'entreprise, on prend un certain nombre de risques, hein, et que effectivement, vu les rapports de force qu'il y a au sein de chaque entreprise, on puisse avoir des chantages à l'emploi, etc. Moi, je note juste que Raymond Soubi, qui est un spécialiste du droit du travail, qui était un conseiller de Sarkozy, a juste dit que le nouvel ordre social qu'essayait de mettre en place Emmanuel Macron avait un côté bizarroïde.
Alors justement,
parce qu'il allait affaiblir les corps intermédiaires.
Donc,
il faut juste que plus de pragmatisme, oui, mais en même temps, il faut que la démocratie sociale puisse quand même continuer d'exister, même s'il y a un problème de représentativité des syndicats.
Vous savez, vous écoutez aussi, hein, vous voyez bien le dialogue social, justement. Le dialogue social, justement, Gilles Vintraub, on a vu François Hollande qui a essayé, enfin lui-même, tenter de mettre en place un nouveau dialogue social. Il n'a pas vraiment réussi. Emmanuel Macron, considéré comme plus libéral, vous pensez que lui peut réussir ?
Mais la grosse différence que soulignait Xavier Alberti, c'est que François Hollande a fait la loi El Khomri qui ne correspondait pas à ses engagements ni à son programme de candidat, tandis que Emmanuel Macron, lui, annonce la couleur.
C'est cohérent.
On ne peut pas lui reprocher. Quant à ce que je connais de la réforme du marché du travail qu'il a l'intention de faire, je trouve que ça irait tout à fait dans le bon sens et ça me paraît absolument. Excusez-moi, vous avez donné votre sentiment, je donne le mien. Ça serait typique des projets de loi auquel la droite pourrait apporter son soutien s'il n'y a pas de majorité.
Une concertation avec les syndicats.
À suivre en tout cas très vite, ça devrait arriver cet été. Merci Christophe Alig, merci en tout cas Julien Bayou d'être passé ce soir. Merci beaucoup Xavier Alberti. Gilles Vintraub, la une du Figaro demain.
La une du Figaro, c'est Macron dynamite le PS.
Dynamite le PS. Et la une de Libération, Christophe Alig.
Les coulisses d'un départ, demain c'est le dernier conseil des ministres présidé par François Hollande.